William de Vigdeyen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie de BNP Paribas Investment Partner. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. On peut dire, hein, pour simplifier assez vite sur ces marchés, qu'on a eu une très bonne performance des indices boursiers, en tout cas marché actions américain. Un peu moins bien en Europe, mais c'était pas mal non plus compte tenu du contexte économique. Quel regard vous portez, on n'est pas tout à fait à la mi-année, mais sur ce qui se passe en ce moment, en tout cas sur les marchés actions?
Ce qui domine comme thématique, c'est un, les investisseurs qui cherchent du rendement, toujours. Et ça ne va pas disparaître, sachant que l'environnement de taux courts négatif en termes réels va perdurer pendant quelques années encore. Et l'autre thématique qui domine, bien sûr, c'est l'abondance de liquidités qui est créée à la fois par la Réserve fédérale et maintenant par la Banque du Japon.
Alors en même temps, on pourrait dire que malgré cela, peu d'investisseurs institutionnels, pour l'instant en tout cas, sont investis en actions ou ont investi sur les marchés actions. Ils restent un petit peu en dehors de ces mouvements, malgré les hausses justement qu'on a vues.
Malheureusement, on dirait effectivement, je pense que c'est en partie lié au fait que, pour des raisons, disons, cadres réglementaires, la marge de manœuvre dont ces investisseurs disposent est très limitée. Et donc, même s'il y avait une volonté d'augmenter sa partie action, pour des raisons de fonds propres, etc., qu'on ne peut pas. C'est ça qui explique aussi, je pense, pourquoi les volumes dans les marchés sont tellement bas.
Alors, on a du côté des événements hein, qui ont eu lieu sur les dernières semaines, notamment concernant les marchés émergents, des questions sur la Chine. Il y a même à nouveau certains investisseurs qui reparlent de hard landing, d'atterrissement brutal de l'économie chinoise. Comment vous observez ce qui se passe sur ces marchés?
Oui, c'est un peu à la mode ces derniers temps d'être négatif sur la Chine. Lorsqu'on regarde les articles dans les journaux, qui sont aussi alimentés par ce que produisent certaines maisons de recherche, mais aussi par exemple la notation qui a été révisée par Fitch et d'autres commentaires qui ont été donnés. Tout ceci concerne le shadow banking. Lorsque j'en discute avec nos équipes sur place, on me dit qu'effectivement, il y a une partie de ce système qui en fait, n'est pas du tout en bonne santé, et qu'en revanche, il y a une autre partie qui, en fait, se tient plutôt correctement. Ce qui est important aussi, c'est lorsqu'on ramène la partie en difficulté par rapport au PIB du pays. Et par rapport aussi aux réserves internationales du pays, on arrive à des situations qui sont tout à fait gérables. Donc il y a une certaine tendance à exagérer la problématique. L'autre point qui frappe lorsqu'on regarde la Chine, c'est qu'on a toujours une certaine difficulté à dire adieu, disons, à la période où la Chine avait des taux de croissance de 9 à 10%. Croître à 17%, c'est bien et les autorités veilleront bien à ne pas passer en dessous de ce chiffre-là.
L'autre point important aussi du moment, c'est bien sûr ce qui s'est passé du côté des devises avec, alors à la fois on pourrait dire sur les marchés actions japonais et puis ce qui s'est passé sur le yen face aux autres devises. Ça a eu un impact, ça a changé le comportement aussi de certains investisseurs, ce qui s'est passé, cette
Oui,
dévaluation hein, entre guillemets du yen.
ça commence à avoir de plus en plus d'impact. Bon, bien évidemment, il y a l'impact sur la bourse japonaise, mais maintenant, les rendements japonais commencent quand même fort bien à monter, ce qui est un peu inquiétant. Bon, pas encore outre mesure, mais quand même, il faut être très vigilant par rapport à ça. L'autre point qui est intéressant, c'est que de plus en plus de banques centrales ont maintenant aussi pris la voie de baisser les taux. C'est notamment le cas en Corée du Sud. La Nouvelle-Zélande est intervenue dans le marché d'échange. Les Australiens ont baissé les taux. Les Indiens l'ont fait. Et donc ça, c'est assez fascinant qu'il y a donc ça fait un peu tache d'huile. Je ne suis pas en train de dire que tout ceci a été provoqué par la politique japonaise, à l'exception de la Corée, où là, il y a un lien direct. Mais donc, ça, c'est une nouvelle donne quand même.
Est-ce que ça peut avoir un impact? Parce qu'on sait qu'historiquement, hein, quand une banque centrale comme ça se met à changer brutalement de politique, historiquement, en tout cas sur les marchés, ça a eu souvent il y a eu plus de catastrophes que de bonnes nouvelles dans la foulée.
Effectivement, on a eu de maintes exemples dans le passé, et notamment en ce qui concerne le Japon. Nous sommes pour l'instant toujours dans la phase où on a tendance à analyser la nouvelle politique d'un bon œil. Maintenant, le vrai test viendra dans quelques trimestres. Les chiffres de la croissance du PIB qui sont sortis ont été très bons, très bien. Donc là, on est content, bien sûr. Mais il n'empêche qu'on voit déjà apparaître certains échos de bon, est-ce que la bourse n'a pas monté trop vite, etc. Le problème fondamental du Japon, c'est la Banque du Japon estime que la croissance potentielle du pays, c'est à peu près 1%.
Ce qui est
Donc
faible.
si maintenant on essaie de doper la croissance, comment est-ce qu'on va y arriver de faire plus que 1%? C'est ça le vrai problème. Et donc voilà.
Alors on pourrait revenir en Europe et dire que là aussi il y a une problématique de croissance, clairement. Est-ce que de ce côté-là, on pourrait dire aussi que les marchés actions avaient finalement progressé alors que la conjoncture, on a annoncé la récession en France, en Europe, on a cette croissance qui ne revient pas. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre finalement les investisseurs qui ont plutôt acheté des actions et puis ce qui se passe concrètement sur l'économie au jour le jour?
Il y a la thématique globale qui joue bien évidemment, la recherche du rendement, les liquidités abondantes, etc. N'oublions pas par ailleurs qu'à peu près 50% du chiffre d'affaires des sociétés européennes est quand même réalisé en dehors de l'Europe. L'autre élément qui joue, c'est que je pense que les investisseurs à la fois européens et non européens regardent la zone euro presque comme une position sous forme d'option. Donc ils sont attirés par la caractéristique optionnelle de la zone euro. Je m'explique. Dans le passé, on a vu, lorsque la situation devenait très tendue, qu'on arrivait à faire des progrès considérables. Et je pense que ça finit par très fortement influencer les esprits. Les esprits où on se dit, oui, maintenant il y a une problématique que les courroies de transmission ne marchent pas, l'accès au crédit par les PME est difficile dans le sud de l'Europe, etc. Mais on trouvera bien une solution parce que par ailleurs, Mario Draghi a fait référence à des initiatives, etc. Et je pense que ça, c'est un facteur en fait qui soutient aussi la courbe boursière européenne et c'est également un facteur qui soutient l'euro par rapport au dollar. Parce que ça, c'est un phénomène quand même fascinant, que le jour où, en début du mois, on annonçait les prévisions de la Commission européenne, et là, c'était vraiment tout noir, et on a vu les chiffres d'emploi américains qui étaient quand même bien, l'euro s'est même raffermi ce jour-là.
Oui, étonnant. Alors on pourrait dire aussi qu'il y a eu des achats d'obligations par les Japonais hein, dans cette période. On
Oui,
voit
tout
que
à
la
fait.
France emprunte
Oui.
à des taux très bas. Quels sont un peu je dirais, les risques qu'il va falloir peut-être maîtriser, sans les maîtriser, mais en tout cas les erreurs peut-être à ne pas faire sur les prochains mois en termes d'investissement. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il va falloir se protéger d'un certain nombre de risques? Est-ce qu'on peut à nouveau avoir une consolidation qui n'a pas vraiment eu lieu encore?
Le risque structurel auquel on est confronté, et ça c'est un risque à un horizon d'un an et demi, je dirais, c'est qu'on finirait à se retrouver dans une situation où les primes de risque sont absolument trop faibles. Et ça c'est vraiment le risque, que finalement les investisseurs se rendront compte que là je suis positionné sur des actifs risqués, des actions par exemple, et en fait, j'ai plus la prime de risque, elle est trop faible. Et on a beau faire référence aux rendements obligataires, bien évidemment, qui sont très bas, mais on se met 12 mois dans l'avenir et on va donc dire, mais attends, le QE aux États-Unis, normalement, c'est fini, on commencera à parler du premier resserrement, etc. Et c'est sur cette toile de fond que le comportement des marchés obligataires japonais devient très, très important aussi. Donc ça, c'est vraiment le risque. Donc il y a ce qui se passera sur la partie longue de la courbe américaine en conjonction avec des courbes haussières plus élevées et donc des primes de risque plus faibles. Ça, c'est le vrai facteur. À un horizon plus court, pour moi, les grandes thématiques sont, bon, il faut quand même que les hommes politiques européens arrivent à surprendre positivement les marchés lorsqu'on vient avec des propositions d'une union bancaire. Lorsqu'on entend le ministre des Finances allemand, M. Schäuble, ses propos récents laissent quand même un sentiment un peu mitigé. L'autre point, bien sûr, c'est que bon, il y a les élections allemandes qui risquent d'être précédées par quelques prises de position assez fermes Et ça, il faudra vraiment situer dans son contexte politique et électoral.
Merci d'avoir fait le point avec nous, William de Vigder. On rappelle que vous êtes donc le directeur de la stratégie de BNP Paribas Investment Partners.
Plaisir.